Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Canal Académie a déjà reçu à plusieurs reprises le président François Théré, juriste omnivore, je dirais, puisque vous êtes à la fois très bon en droit civil et excellent en droit public. Et vous avez remis le 30 mai au public et à l'Académie un rapport relatif à la modification du droit de la responsabilité civile. Et cette modification s'avère à la fois nécessaire et prometteuse de belles nouveautés. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Président, pourquoi cette modification et dans quel sens ?
Je vais tout de suite préciser que ce rapport remis le 30 mai dernier a été remis aussi, non seulement dans le cadre de l'Académie, mais aussi dans le cadre de travaux que l'Académie mène avec le soutien du ministère de la Justice. Et c'est pour ça d'ailleurs que des anciens gardes des Sceaux étaient présents lors de cette remise, tout simplement parce que la chancellerie nous a beaucoup aidés, financièrement et psychologiquement aussi, dans la réalisation de ces travaux. Il est clair d'ailleurs que cette réalisation a été faite en liaison étroite avec des magistrats de la direction des affaires civiles qui ont toujours suivi les travaux que nous menions et qui expliquent aussi la relative solennité de la remise qui a eu lieu le 30 mai dernier. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi cette réforme et pourquoi, plus exactement, ces propositions de réforme, c'est parce que le droit français des contrats et des obligations est un droit qui demeure encore très retardataire par rapport à des travaux menés ou à des réformes réalisées à l'étranger dans des pays voisins du nôtre. Nous avions d'ores et déjà mené un travail qui avait donné lieu aussi à une remise officielle sur le droit des contrats, et cette fois-ci, il s'agit cette fois de travaux sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, indépendamment de toute réalisation d'une opération contractuelle. Et cette nécessité était apparue parce que les textes qui gouvernent la matière sont des textes qui ont plus de 2 siècles d'existence et qui ne correspondent plus par rapport aux besoins de l'Europe à une réalisation suffisante et satisfaisante en matière juridique. À telle enseigne que lorsque des contrats sont signés et que l'on envisage aussi, mais cette fois il s'agit de la matière contractuelle, des règles de responsabilité, on s'aperçoit que le droit français, la loi française est beaucoup moins souvent choisie parmi d'autres, mais cela en matière contractuelle. Mais tout se tient. Et les règles relatives à la matière délictuelle sont aussi très importantes à améliorer.
La notion même de responsabilité a dû évoluer considérablement ces dernières années.
Elle a évolué tout au long du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, en raison de découvertes scientifiques qui essentiellement ont démontré que l'importance des dommages pouvait être considérable et ne pas être en proportion avec les fautes commises à l'origine de ceci. Et ceci a dû obliger les législateurs ou les tribunaux à tenir compte de l'existence de dommages de masse qui sont survenus et qui obligent, à l'évidence, à changer la démarche possible. Et je voudrais donner l'exemple des 3 grandes réformes, les 3 grands progrès du XXe siècle. D'abord la physique, le premier tiers, et qui a entraîné des dommages possible, prévisible, éventuel ou conditionnel, en matière atomique notamment, les dommages sont tels que les concepts traditionnels ne conviennent plus. Puis il y a eu le 2e tiers, au fond, l'invention, les progrès de la chimie, qui l'est encore par l'éventualité, évidemment, d'armes chimiques, même en droit international, mais de toute façon, en droit interne, explique aussi l'évolution. Et puis il y a eu la 3e vague. La 3e vague, c'est la biologie et la génétique. Et là encore, dans la mesure où il peut résulter des actions des hommes des dommages considérables, il était normal de repenser un peu les problèmes.
Oui, nous sommes une société qui dépend de plus en plus de machines, d'inventions qui nous échappent complètement. Donc très souvent, on est confronté à une notion qui est quasiment une responsabilité indirecte ou très diffuse. Donc je suppose que vos propositions tiennent compte de cette diffusion, de cette dilution de la responsabilité dans la vie quotidienne des individus.
À l'évidence, il faut canaliser la responsabilité par rapport aux dommages considérables qui en résultent. Cela peut être fait d'ailleurs par l'appel à la solidarité et aux collectivités, parce que le contrat d'assurance ne peut plus pleinement satisfaire à certaines exigences nouvelles qui résultent de tous ces événements de la science. Et puis, il y a aussi, peut-être, et ça a été une de nos démarches, le souci, probablement, de ne pas exagérer les formes de responsabilité pour des dommages qui ne se justifient pas au terme, du moins dans une perspective de la réparation véritable des dommages. Et par conséquent, c'est aussi moins l'idée d'aller chercher si la responsabilité est due au fait personnel, au fait des choses, au fait d'autrui, que nous avons retenu, mais plutôt de partir de la distinction des dommages. Et de distinguer les dommages corporels ou psychiques d'une part, et puis les dommages matériels ou économiques de l'autre, qui n'appellent pas véritablement des réponses identiques.
Donc, on garde la notion basique qu'il y a dans l'article 1382 de dommages directs, évidents, immédiats, et puis on rajoute de nouvelles notions ou des notions qui existaient déjà mais qui sont précisées par les propositions de votre rapport.
Nous n'avons pas véritablement créé de concepts nouveaux, encore que certains d'entre eux interviennent. Mais notre idée était de bien distinguer les dommages qui atteignent le corps de l'homme ou son psychisme et qui appellent une réparation aussi large que possible. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de dommages matériels et aussi économiques, les dimensions de la réparation sont excessives et par conséquent, il est normal de prévoir des types spéciaux de responsabilité comme il en existe déjà, mais à propos des automobiles, des produits défectueux, des dommages en matière médicale, et à propos de cela, effectivement, de concevoir des catégories particulières de réparation. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement création de concepts nouveaux, si ce n'est que l'on voit apparaître quand même deux idées, mais qui sont à manier avec une grande précaution, l'idée de dommages intérêts punitifs et qui peuvent être augmentés le montant de la réparation mise à la charge de l'auteur du dommage s'il a tiré des profits, même sans commune mesure, avec le dommage causé à la victime. Et puis il y a aussi, dans ce cas-là, au fond, deux idées sous-jacentes qui sont distinctes, mais qui souvent se combinent, entre le souci aussi de prendre en considération des dommages punitifs ou des dommages aussi lucratifs.
Vous avez dit tout à l'heure que souvent le droit français n'était pas pris en compte parce que trop complexe, trop touffu. Est-ce que dans votre étude, il y a une influence importante du droit comparé et surtout du droit européen ?
Que le droit français ne soit pas adapté, c'est une chose. Qu'il soit trop complexe, je ne pense pas qu'on puisse véritablement faire ce reproche. Et vous savez, on dit souvent aux juristes, vous êtes bien, vous les juristes, mais vous êtes trop compliqués. Vous compliquez, et d'un autre côté, vous êtes trop éloignés du réel. Le juriste peut répondre tout simplement que ces deux reproches sont contradictoires. Parce que la réalité est complexe et qu'il faut bien que le droit s'y adapte. Alors, ce n'est pas tellement la complexité, c'est plutôt l'existence de concepts doctrinaux qui ont pu avoir leur importance à une certaine époque, mais qui ne se justifient plus tellement aujourd'hui. Alors, s'agissant justement des droits étrangers, il apparaît que notre droit mérite d'être repris en considération à partir effectivement des innovations que l'on trouve notamment en droit néerlandais et en droit allemand, de la responsabilité beaucoup plus sage et peut-être moins erratique que certaines manifestations de notre système juridique. Et le droit comparé, bien entendu, est important. Le droit européen aussi, dans la mesure où il faut se méfier des créations aussi bruxelloises, qui en la matière mérite quand même d'être corrigé dans une perspective de simplification et d'accès, d'accessibilité de la règle de droit.
Oui, il faut surveiller Bruxelles d'assez près dans ce domaine.
Et surtout les Français qui sont à Bruxelles, car les plus enragés en réalité pour faire de la législation bureaucratique sont souvent les Français.
Ah bon ?
Mais oui.
Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quel sera l'avenir de ces propositions ?
Le problème est très délicat. La question est délicate parce qu'on se demande si, au fond, nous ne sommes pas que des légistes en chambre.
Ce travail vous a pris combien de temps, en fait ?
Oh, il y a 5-6 ans que nous y travaillons. Le dernier, non, c'est 2 ans et demi, quoi.
Oui.
Mais nous avions commencé déjà des travaux de la chancellerie sur le droit de la famille, il y a près de 8 ans.
Oui, je m'en souviens.
Puis il y a eu le droit du contrat, puis le droit de la responsabilité, la responsabilité. Et à l'heure actuelle, nous travaillons sur le régime général des obligations, ce qui est encore plus délicat et implique que l'on fasse, comme par le passé, appel non seulement à des universitaires, mais aussi à des personnes qui sont initiées à la pratique du droit de manière constante. Là, il fallait que nous travaillions avec des assureurs. Il faudra que nous travaillions avec des banquiers. Il n'est pas question de faire du travail en chambre comme ça existait sous l'ancienne France, où il y avait des clubs de nomophiles qui se réunissaient pour faire des lois. Il y en a maintenant aussi aux États-Unis. Après le mariage des enfants, on s'amuse à faire des lois comme on joue au bridge ou à la bourse. Mais de toute façon, ceci étant, il faut bien constater que ces travaux-là suscitent des difficultés quant à leur passage au droit positif. Car les méthodes parlementaires, les amendements de séance, les amendements surtout de temps de nuit, la nuit favorise les coups bas ou les transformations, de textes qui ont été mûris pendant très longtemps. Et alors là, il y a une question d'ordre démocratique qui se pose. D'autant plus que souvent, les ordres du jour des assemblées sont chargés.
Surchargés.
Alors, passer des textes qui ont été pendant des années mis au point de cette manière, on finit par s'interroger, mais ce n'est pas très démocratique, sur le recours aux ordonnances pour procéder à des réformes de cette nature, ce qui s'est produit d'ailleurs en droit de la famille, en droit des affaires, en droit des hypothèques et des privilèges, déjà dans le passé. C'est un problème français, c'est un problème aussi qui se pose en cette période préélectorale. Il me paraît douteux que le texte puisse passer avant les élections de l'année prochaine. Et il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une raison pour abandonner le travail, au contraire, parce que nous avons le temps de peaufiner les derniers textes et ensuite les pouvoirs publics en feront ce qu'ils voudront. De toute façon, à l'heure actuelle déjà, nos travaux sont pris en considération à l'étranger. J'ai été... Ah oui, mais ça, ils passeront peut-être par l'étranger. Et j'ai été déjà à des conférences, à des congrès, à Oxford d'ailleurs, et les essais, les travaux de législation française sont pris largement en considération, mais ils le sont aussi en France. Le ministère de la Justice est très favorable à la réalisation de ces réformes.
Merci, Monsieur le Président.